Boker Tov, bonjour à toutes, Boker Tov les Koulam, Boker Tov mesdames, est-ce que tout le monde va bien et est-ce que vous êtes là pour qu'on puisse commencer notre chiour? Donc je vais attendre quelques secondes que tout le monde se mette en place et comme ça on peut commencer notre étude Mama Charchav. Juste faites-moi un signe. Voilà, il a fait. Très bien. Alors, je propose qu'on y aille. Hein, on se lance. C'est parti. Alors, la première question, la grande question, c'est quand est-ce qu'on se revoit en live, en vrai, en chair et en os? C'est ça la grande question. Je suis à votre disposition. Dès que vous me dites qu'on se revoit, eh ben, on se revoit. D'accord? Quoi qu'il en soit, là, on continue notre étude de la Tefila sur le support informatique et c'est parti. Nous sommes arrivés à la dernière bracha de la Shmoneh Esrei. Ça fait longtemps qu'on bosse et ça y est, on a enfin réussi à atteindre la dernière bracha, ce qui fait que Be'ezrat Hashem, à la fin du shiur, eh ben, on saura prier. Voilà, à la fin de ce shiur, eh bien, ça y est, on saura véritablement comment faire la tefila, puisque ça y est, vous avez maintenant toutes les clés en main. Alors, venez, on rentre dans le vif du sujet. La dernière bracha s'appelle Birkat Kohanim, ou alors Birkat Simshalom. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Birkat Kohanim? Ben, simplement parce que c'est dans cette bracha-là qu'on lance, on ouvre cette bracha, si vous voulez, avec la Birkat à Kohanim. Et donc, il va falloir qu'on dise un mot sur cette Birkat Kohanim. Qu'est-ce que c'est que cette Birkat Kohanim, Rabotai? Eh bien, Birkat Kohanim, c'est une mitzvah. Une mitzvah qui a été donnée à Aaron et à ses enfants de bénir les Béné Israël. Mais attention, cette bracha ne doit pas être faite n'importe comment. Elle doit être faite par amour. Nos Kohanim, quand ils montent sur le Dukhan et qu'ils vont faire la bracha, ils disent « Baruch HaDashem, l'okem Yecholam, asher kideshanu be mitzvato » Shel Aaron, vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava. Be'ahava, comment ça se fait? D'où on sait qu'il faut bénir les bnei Israël be'ahava? Alors oui, évidemment que Aaron, il était Oef Shalom, Verodef Shalom, Oef et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Mais ça ne veut pas encore dire que parce que Aaron était plein d'amour, eh bien, pour faire la bracha des Kohanim, il faut être plein d'amour. Bah, tout simplement, d'où on sait qu'il faut le varech tamo Israël be'ahava, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est marqué dans le verset, la Birkat Kohanim, c'est d'abord et avant tout un verset de la Torah, de la paracha de Be'alotecha dans le livre de Bamidbar. Eh bien, dans le verset, comment est-ce que la Birkat Kohanim nous est présentée? Eh bien, c'est marqué, Amor Lahem. Donc, puisqu'il y a marqué Amor Lahem, Yivarecha Hashem Veishmerecha, Yair Hashem Banav Velecha Vechunika Issa Hashem Banav Velecha Vechunika Shalom, ben, puisqu'il y a marqué Amor Lahem, c'est qu'il faut le faire par amour. Ben oui, puisque Amor en séfaradite, en espagnol, ça veut dire amour. Donc, puisqu'il y a marqué Amor Lahem et que Amor, ça veut dire amour, ben, c'est qu'il faut faire la bracha par amour. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu tiré par les cheveux? Ben, moi aussi. Seulement, c'est comme ça que l'explique Rabbeinu Leontin, qui était le maître de Rabbeinu Gershon Meor Hagola. Il cite clairement en disant que puisqu'il y a marqué Amor et que Amor en espagnol, ça veut dire amour, eh bien, c'est que ça veut dire par amour. Oh, c'est pas la première fois hein, que dans la halakha, on va se servir d'une langue étrangère pour expliquer des versets. Par exemple, on va expliquer que dans les tefillin, il y a quatre par ces parties dans lesquelles on met quatre parchemins, parce qu'il y a marqué Totafot. Et Rashi nous dira que toutes les poutes, Totafot, toutes et poutes, ça veut dire deux, chacun dans une langue différente. Donc c'est pas la première fois qu'on utilise ce genre d'explication. Donc, en d'autres termes, les Kohanim doivent bénir par amour. Et donc, ben, il faut également une simcha. L'amour, c'est ce qui amène la simcha. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de simcha. Ce qui va expliquer que dans certaines communautés, eh bien, on ne fera pas Birkat Kohanim, ou du moins pas à certains moments. Chez les Sfaradim, on a l'habitude, en Chutz La'aretz, de faire Birkat Kohanim le Shabbat. Uniquement le Shabbat. Chez les Ashkenazim, en Chutz La'aretz, eh bien, on ne fera Birkat Kohanim que pendant la Tfila de Moussaf de Yom Tov. Parce que c'est là-bas qu'on est plein de Simchat Yom Tov. Mais dans la vie de tous les jours, on ne fait pas, parce que y a pas de Simcha à être en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, Baruch Hashem, eh bien, on refait Birkat Kohanim tous les jours, parce qu'on est plein de simcha. Mais qu'est-ce que c'est que cette bracha de Birkat Kohanim? Eh bien, venez, on rentre dans le vif du sujet. Birkat Kohanim, eh bien, c'est trois versets. Trois versets qui chacun comporte le nom de Dieu. Et ces trois versets qui vont crescendo dans le dévoilement de la Kedusha. Puisque dans le premier, il y a trois mots. Ensuite, il y a cinq mots. Et ensuite, il y a sept mots. Le premier faisant référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le second faisant référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et avec cela, Moshe et Aaron. Et enfin, le troisième avec les sept mots, c'est les sept Ushpizin. Donc, on avance dans la Kedusha. Mais de quoi parle cette bracha de Birkat Kohanim? Je ne sais pas si il y a des gens ici qui sont marié avec des Kohanim, enfin si, je sais en fait qu'il y a, à quoi votre mari, eh bien, doit penser lorsqu'il fait sa bracha. La vérité, c'est que ce n'est pas que les Kohanim, puisqu'on a pris l'habitude, comme Minag, que chaque papa bénit de la même façon ses enfants le Shabbat. Donc, ben, il est important pour nous de savoir à quoi on fait référence quand on fait la bracha. Qu'est-ce qu'on à quoi on pense quand on dit Yevarechecha Hashem veishmerecha. Yevarechecha Hashem veishmerecha, ça veut dire, nous dit Rashi, parce que je vous rappelle que c'est donc une mitzvah, enfin un verset de la Torah. Rashi dit, qu'est-ce que c'est Yevarechecha? Qu'est-ce que c'est Bracha? Et bien on l'avait déjà expliqué ensemble, Yirbu Nechasecha. Donc, c'est quoi la bracha de Yevarechecha? Que t'es plein de fric. Voilà à quoi on pense lorsqu'on dit la bracha de Birkat Kohanim. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te donne plein d'argent, une abondance matérielle, et qu'il te garde des voleurs. Voilà la signification de ces trois mots. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est que Dieu te donne de l'abondance matérielle. Ensuite, fort de cette abondance matérielle, alors on peut rentrer dans une deuxième dimension de la beracha. Et c'est quoi cette deuxième dimension de la beracha? Eh bien, c'est Yaer Hashem Panav Elecha Vichuneka. Mazé, Yaer Hashem Panav Elecha. Et Arat Apanim, c'est la Torah. Lorsqu'il y a marqué dans la Megillah de Esther, la Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar, Ora, nous disent nos sages, c'est Torah. Donc c'est quoi, Yaer Hashem, Pana, Velecha, que Dieu te donne la Torah. Donc la première partie de la bracha était l'abondance matérielle. Ma deuxième partie de la bracha, c'est quoi? L'abondance. Je ne vais pas dire spirituel, je vais dire Torah. Et même si tu ne mérites pas, puisqu'il y a marqué Vichuneka. Vichuneka, ça vient du mot Chen. Or, Chen, eh bien, ça veut dire sans mérite. Chen, Zelo, Yafé. Chen, c'est Chinam. Zelo Yafé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Zelo Yafé? Ben oui, Shlomo HaMelech dans Michelet et dans le fameux Eshet Ra'il qu'on chante à nos femmes, eh bien on dit Sheker Achen Vehevel Ayofi. Tu parles. Elle a pris 3 heures pour se préparer, pour se faire la plus belle du monde, et toi tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis chérie, Sheker Achen Vehevel Ayofi. Oh tu sais, la grâce n'est que mensonge. Et la beauté, pfff! Isha irat Hashem ititalal. Je ne sais pas si ça fait tellement plaisir, en fait, de dire ça à ces femmes. À nos femmes. Shaker achem, veheva la yofi. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Behemet, Shlomo n'a pas dit que a yofi ze shaker. Il a dit a yofi ze hevel. Ma ze hevel? Hevel, c'est la fumée. La fumée qui sort de ma bouche ou la fumée qui sort de la casserole. Maintenant, s'il ne sort rien de ma bouche, il n'y a pas de fumée. Si dans ma casserole, il n'y a rien, je peux mettre ma casserole sur le feu, il n'y aura pas de fumée. Ce n'est que lorsqu'il y a quelque chose dans ma casserole, de l'eau, un plat, ce que tu veux, que lorsque je la mets sur le feu, alors la fumée sort. En d'autres termes, la fumée, c'est l'expression extérieure. De quoi ? De ce qu'il y a à l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'expression extérieure non plus. En d'autres termes, la beauté, c'est l'expression extérieure. De quoi ? De ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, il faut le savoir. D'après l'idéal du judaïsme, si quelqu'un est beau extérieurement, ça veut dire qu'il est tzadique. Et c'est la raison pour laquelle dans le Tanakh, on va nous dire de plein de tzadikim qu'ils étaient beaux. Beaux ou belles. Ça nous montre qu'ils étaient tzadikim. Vous allez me dire, ah ouais, mais... On a déjà vu des gens très jolis et qui étaient des pourris. Et inversement, des gens très moches qui étaient des tzadikim. Nahon, ça c'est depuis la destruction du temple. Depuis la destruction du temple, il n'y a plus cette osmose entre l'intériorité et l'extériorité. Mais l'idéal doit revenir et est en train de revenir. La beauté qui s'exprime doit refléter la beauté intérieure de l'être. Ça c'est vrai pour la beauté. La chène, la grâce. Chène, ça vient du mot chinam. Comme en français, grâce vient du mot gratuit. Certes, il n'est pas vraiment beau. Avant, yesh machou, yesh chène. Comme Esther Amalka, dans Megillat Esther, qui n'était pas belle. Puisqu'elle a marqué, Esther noset chène bechol roéa. Elle a quelque chose, mais ce n'est pas la beauté. En d'autres termes, virhuneka, ça vient du mot chen. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu qui nous donne la Torah, Yair Hashem Pana Velecha Vichuneka, qui nous donne la Torah même si on ne la mérite pas. Donc la première partie de la bracha de Birkat Kohanim, c'était l'abondance matérielle. La deuxième, c'est l'abondance de la Torah. Et enfin, la troisième partie, c'est quoi ? Yissa Hashem Pana Velecha Veyasem Lecha Shalom. Mazeïssa Hashem Panav, la sept panim. La sept panim, en français, ça vous, on pourrait le traduire par fais-lui un kiff. Comment ça, fais-lui un kiff? Ben, il y a marqué dans la Torah, lo la sept panim, velotissa panim, velotikar shochad. Maze velotissa panim. La sept panim, c'est pas gratuit. C'est, il y a des mérites, mais pas assez. Alors, c'est quoi? Anibichlan lo mistakel. Je te fais un kiff. Je te donne. Après, on discute. Eh bien, dit le Talmud, comment est-ce que peut, Kadosh Baruch Hu, il peut la sept panim, alors qu'il y a marqué dans sa Torah, l'otissa panim. Et la réponse, c'est que le Midrash nous dit que Dieu, il dit, comment tu veux que je leur fasse pas un kiff? Comment tu veux que je leur fasse, que je ne leur fasse pas Issa Hashem Panav? Alors, et moi, je leur ai dit dans la Torah, ve'achalta, ve'savata, ve'berachta. Moi, je leur ai dit que tu ne dois faire le Birkat Amazon que quand tu es savéa. Et eux, Bnei Israël, qui aiment tellement les mitzvot, ils ont mis en place Shi'ur Sviya. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place de dire, voilà, quand tu manges Kazaït ou Kabeïta, ça s'appelle que tu es savéa. Même si tu n'es pas savéa, on s'en fout, tu fais le Birkat Amazon. Et donc Dieu lui dit, regarde, les Bnei Israël, ils me kiffent tellement, comment tu veux que je ne les kiffe pas? Donc, Issa Hashem Pana Velecha, c'est, il me fait un kiff et après on discute. Veyasem lecha shalom. Et au final, l'objectif, c'est qu'il y ait shalom. On dira le Talmud, sera repris dans la halakha, dans le Rambam, Shakadosh Baruch Hu lo matzak li marzik bracha yoter mea shalom. Shalom, c'est l'union, l'unité des valeurs. Shalom, c'est lorsqu'il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Et c'est ça l'idéal par lequel nous terminons la Amida. Sim Shalom. Tova uvracha. Oui, on rentre dans la dernière bracha. Sim Shalom. Tova uvracha. C'est-à-dire quoi? On veut qu'il y ait Tova vebracha. C'est-à-dire, bracha, on a dit, c'est l'abondance matérielle. Mazé, atov. Atov. Zé, atora. Ki l'écart tov natati lachem. Donc, torati, alta azovu. L'écart tov, zé, atora. Donc, mazé, tova ou bracha. Eh bien, je veux que, puisque sim shalom, il y ait gam tova, c'est-à-dire l'abondance au niveau de la Torah, des gam bracha, c'est-à-dire l'abondance matérielle. Sim shalom, tova ou bracha, chaim, chen, vachesed, vachamim, al kol Israël, leno, al kol Israël, amecha. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? On veut que tu aies, donc, on a dit, l'union des valeurs entre tova et bracha. Et ça ne suffit pas, parce qu'on veut que ce soit tout simplement également insufflé à l'intérieur de la vie. C'est pour ça qu'on te dit « Chaim »« Chen v'chesed v'rachamim » C'est-à-dire qu'on veut que dans cette vie, il y ait « Chen » On a dit « Chinam »« Chesed » « Chinam » c'est « Je ne regarde même pas »« Chesed » c'est parce qu'on m'a demandé « V'rachamim » c'est ce qui va me... Je vais y arriver, je vais mériter, mais donne-moi le temps. Tout ce qu'on a évoqué durant nos études de la Tefila. Je veux qu'il y ait l'union de tout. Alenu, v'al kol Israël amecha. C'est-à-dire, Alenu, c'est aussi tout Israël dans cette génération, v'al kol Israël amecha dans toutes les générations qui vont venir. Ubarchenu avinu kulanu ke'echad, yachad be'or panecha. Et là, on vient dire, je veux donc que maintenant la bracha, elle soit be'or panecha. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a dit que la bracha, l'abondance matérielle, c'était différent de l'abondance de la Torah, mais on veut que ça soit réuni. Maintenant, on dit, bah, maintenant que c'est réuni, on veut que la bracha matérielle, elle ne soit que le reflet du dévoilement de la Torah. Ah, tu m'as donné une grande parnassa, j'ai réussi à avoir maintenant une grande parnassa, je suis devenu Menahel d'une boîte de high-tech. Eh bien, que cette boîte de high-tech me permette de dévoiler un Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est ce qu'on dit. Barchenu avinu kulanu ke'echad yachad be'or panecha. Ki bemet be'or panecha natata lanu. C'est par la Torah que tu nous as donné or apanim. Et qu'est-ce que tu nous as donné? Eh bien, machloket. Il y en a qui disent Torah ve'chaim, chez les Sfaradim, qui donc toujours mettent en parallèle la chaim à metziyutim et la Torah. Mais là, il faut bien le dire, sur ce coup-là, c'est les Ashkenazim qui ont raison, qui disent Torat Chaim. Lo Torah ve Chaim et la Torat Chaim. Que la Chaim qu'on vit, elle est Torah. Que la Torah qu'on a reçue, elle se dévoile Bachaim. Torat Chaim ve Avat Chesed. Ahava, itzicha liot tluya badavar. Et bien, dit le Talmud qu'une ahava qui est tlouya badavar, donc qui dépend de ce que je fais, n'est pas véritablement une ahava. Parce que batel tam, batel ahava, que si bah, ce qu'on fait est annulé, alors il n'y a plus de ahava. Aval, ahava tresed, c'est une ahava qui ne regarde pas ce qu'on fait. Toujours donc, quand il y a des problèmes de zougiout, alors la personne, elle dit, ouais, mais attends, quand il commencera à se comporter bien envers moi, alors je pourrais me comporter bien envers lui. Donc en fait, Zahava Shetri Abadavar. C'est s'il fait bien, alors toi, t'es sympa. C'est le Zugiyut. Zugiyut, c'est Ahava Tresed. Il va me le rendre, il va pas me le rendre. L'homme est chané. Ahava Tresed. Quand on est dans un monde où nous, on agit betor Ahava Tresed, alors on peut attendre qu'il y ait également le retour. C'est-à-dire, tzedaka, uvracha, verachamim, vechaim, veshalom. C'est-à-dire que le monde entier me rend cette ahava tresed dont moi j'ai fait preuve. En d'autres termes, le monde entier me fait prendre conscience. Eh bien, tout simplement que je suis en train de dévoiler l'idéal de la création. De faire l'union des valeurs. צדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב יהיה בעיניך לברכנו. שיהיה טוב בעיניך. C'est-à-dire que ce qu'on va faire ici de toute cette shefa que tu nous donnes, eh bien, soit en accord avec la volonté qui est la tienne. On veut faire en sorte que notre volonté est ta volonté. Ce que dit la Mishnah de Pirkei Avot, Batel Retsoncha Mipnei Retsono. Levarech et kol amecha Israël, bechol et, ou bechol sha, mais c'est bechol et, dans chaque époque, bechol sha, dans chaque vie. Berov oz veshalom. Mais c'est berov oz, il faut qu'il y ait une puissance dans ce dévoilement divin. Donc berov oz veshalom, c'est-à-dire l'union des valeurs. Et donc, je peux enfin véritablement terminer ma beracha en disant Baruch ata Hashem, hamevarech et amo Israël bashalom. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, il y a une phrase qui a été dite par Enrico Macias et Doudou Fischer, et ils ont été plagiés par la Tfila et le Kaddish, qui dit « Ose shalom mibrumav » ou « Yaase shalom alenu ve'al kol Israël ve'imero amen » Ose shalom. Mais elle est terrible cette phrase, parce que ça veut dire que le seul qui peut faire shalom, זה מי שעשה שלום במרומיו. הוא עושה שלום במרומיו, כי הרוסי אפר לוניון דבלור, חוטו למלאכים לאור, הוא יעשה שלום עלינו. זה כאילו הוא פבר יריבי. נכון. נכון, השלום זה לא שלנו. השלום זה שלו. זה נו, כי עברון פורסלה. מאון פבר יריבי או שלום, שאון קומפרן פא, qu'en fait, arriver au shalom, c'est arriver au dévoilement divin. Ça arrivera. C'est pour ça que Menachem Begin a dit cela sans savoir forcément ce qu'il disait, lorsqu'il ouvre la discussion avec Sadat à la Knesset pour faire la paix avec l'Égypte, il dit « Il faut savoir que la paix est inévitable. La guerre, elle, est évitable. » Alors, lui parle au niveau de faire une belle phrase, mais il a raison. La paix, au final, est inévitable. Hashalom, l'union des valeurs, est inévitable. C'est pour ça que les frères de Yosef, au début, n'arrivent pas à lui montrer ce niveau de dévoilement. Et c'est pour ça qu'il est marqué « Velo yachelu dabero le shalom ». Ils n'arrivent pas à lui montrer cette unité du dévoilement. Mais le but du jeu, c'est qu'on arrive à un moment donné au shalom. C'est pour ça que Yaakov a envoyé son fils Yosef auprès de ses frères en lui disant « Lech tiret shalom achecha ». L'objectif, c'est d'arriver au shalom. Ça ne sera qu'à la fin du livre de Bereshit que Yosef arrivera à shalom avec ses frères, lorsqu'il leur dévoilera le plan d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on termine en disant « Baruch ata Hashem, hamevarech et amo Israël » Comment ? Bashalom, Ba'ichoud, dans cette unité. Et bien voilà, les amis, nous avons terminé la dernière bracha de la Tefila. Et donc, une fois qu'on a terminé, on pourrait dire, alors voilà, c'est fini. Mais il nous reste quand même une petite chose à dire. C'est quoi cette petite chose qu'il nous reste à dire, mesdames? Eh bien, c'est que on a vu que la bracha était, la Tefila, était formée de trois parties. 3, 13 et 3. Les trois premières brachot du début, Shevach, les trois dernières de la fin, Oda, comme on vient de le faire, et enfin, les 13 du milieu, qui sont le corpus de la Tfila, qui sont les demandes. On a vu également que les trois premières brachot étaient Keneged, Avraham, Yitzhak, Ve'Yaakov. Les trois dernières brachot, qui sont, je le rappelle, la bracha du Mikdash, ensuite la bracha de la Hoda'a, et ensuite la bracha du Shalom. Eh bien, ces trois dernières brachot sont Keneged, Aaron, Moshe et David. Migdash, celui qui bosse au Migdash, c'est Aaron. Celui qui, tout simplement, amène la Oda, la Akara, le fait qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu, ben c'est celui qui nous a transmis la Torah, Moshe. Et à Shalom, c'est grâce à Malchut Bet David. Donc, si on a Avraham, Yitzhak, Yaakov au milieu, Moshe, Aaron et David à la fin, qu'est-ce qui nous manque pour faire le lien entre les deux? Qui répondrait au nombre de 13? Vous l'avez compris, ce sont les tribus d'Israël. Chaque bracha de la Shmona Esre est mechouvenet keneged echad min hashvatim. Chaque bracha de la Shmona Esre correspond à l'une des 12 tribus qui en sont 13. Puisqu'il y a Dina également à mettre dedans. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire bah, qui correspond à quoi. Nous commençons par la bracha de Da'at, Chonen Adat. Chonen Adat, eh bien, nous dira le Talmud que parmi toutes les tribus d'Israël, celui qui est préposé à l'enseignement de la jeunesse, ok, nous dit le Talmud que ceux qui sont préposés à l'enseignement de la jeunesse, c'est la tribu de Shimon. Ils étaient Melamde Tinokot. Donc Shimon, c'est lui qui amène les bases du Da'at au peuple juif. Donc Ronen Da'at, c'est par rapport à Shimon. La Tshuva, qui nous permet d'avoir ce lien constant, perpétuel avec le Kadosh Baruch Hu. La deuxième bracha, de Baruch HaTashem, Arotze, Vitshuva, bien, c'est pas Shoot, c'est Lévi qui a pour rôle de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu, tout simplement. Ensuite, nous avons la bracha de Slicha. Ah, Slicha, ben, Slicha, ça fait référence à celui qui a besoin de cette Slicha, parce qu'il a fauté. Parmi les tribus, celui qui a fauté, c'est Reuven, avec Maase Bil'a. Donc la bracha de la Slicha, elle est keneged Reuven. Ensuite, nous arrivons à la bracha de Geoula. Mais on a dit, pas la Geoula. Geoula minatzarot. Geoula minatzarot, quand on a des altercations avec les goïms, eh bien on veut qu'on en sorte de ces altercations. Eh bien, c'est keneged Gad. Lama, pourquoi? Parce que dans la bracha que donne Yaakov à Gad, c'est Gad Gedoud Yegoudenu. Gad est celui qui est capable de nous défendre. Il est le militaire par excellence. C'est lui qui est capable de nous sortir des situations périlleuses avec les goïms. Après, nous arrivons à la bracha de la refoua. Nous dit Srazal que la refoua était amenée grandement par le tribu de Zvouloun, qui dans les marchandises qu'il faisait venir, eh bien, il ramenait également toutes les plantes médicinales qu'il n'y avait pas en Eretz Israël. Donc Zvouloun, il est le préposé à la refoua. Parnassa, c'est Asher, puisque la bracha qui lui est donnée, c'est Shmena Lachmo. C'est-à-dire que Asher est celui qui donne à manger au peuple juif. Il est donc Keneged Birkat à Parnassa. Après, nous arrivons à la bracha de Kibbutz Agalouyot. Oh, qui mieux que Yosef et sa version définitive, Mashiach Ben Yosef, pour commencer à faire le Kibbutz Galouyot, comme l'a fait le mouvement sioniste dès ses balbutiements. Après, nous arrivons au Birkat HaMishpat. Ça, c'est pas shoot. Mishpat, dites-le. Mishpat, c'est Dan. Puisqu'il y a marqué Dan Yadin Amo Keachat Shivte Israël. Ensuite, nous arrivons à la bracha des minimes. Et ça, c'est une bracha particulière parce que c'est une bracha contre quelqu'un, contre tous ceux qui voudraient porter atteinte moralement ou physiquement au peuple juif. Et bien là, c'est évidemment Keneged Dina. En fait, pas face à elle, mais face à ce qu'on a fait à Dina. Par rapport à Shrem Ben Hamor qui a violenté Dina. Donc Dina et tout ce qu'elle représente, eh bien, c'est contre ceux qui lui ont fait ce mal qu'on dit Birkat Aminim. Tzadikim, Birkat Tzadikim, Oho, eh bien ça c'est évidemment face à Issachar, puisque Issachar nous disent nos sages qu'il est celui qui a amené le plus de Rachet Sanhedraot. Issachar, c'est le religieux par excellence. Celui qui étudie la Torah. Ou Hatzadik. Et enfin, la bracha de Yerushalayim. Ah, Birkat Yerushalayim, c'est pas chute, c'est Keneged Binyamin, car Yerushalayim, c'est Bechelko Shel Binyamin. Et nous arrivons à Birkat HaMashiach. Cette fois, ce n'est plus Mashiach Ben Yosef, et là Ben David, et Tzemach David Avdecha. Donc évidemment, ça fait référence à Yehuda, le père de la dynastie messianique. Et enfin, eh bien, nous pouvons arriver au dernier, à savoir la Tfila. Shomea Tefila, Keneged Naftali, qui est Noten Imre Shafer, qui est celui qui sait ouvrir la bouche et parler devant Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, toutes les brachot de la Tfila sont mechouvanot, sont dirigées vers l'un des 12 tribus, des 13 tribus. Nous avons donc Moshe, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, et ensuite Moshe, Aaron, et David. Toute la tfila est en fait tout simplement l'explication que nous sommes les descendants d'une identité extraordinaire. Voilà ce à quoi nous devons penser lorsque nous lançons la Shmoné Esrei. C'est à ça qu'on doit réfléchir à chaque fois qu'on fait notre Shmoné Esrei. Et vous allez me dire, mais attends, si on doit réfléchir à tout ce qu'on a dit, elle durera trois plombes, la Shmoné Esrei. Non. Étudiez ce qu'on a dit. Écrivez-le dans votre sidour. Et ça va rentrer. Ce qui fait qu'après, lorsque vous allez tout simplement dire les mots, instinctivement, vous allez vous rendre compte de tout ce à quoi ça fait référence. Et en cela, je ne peux que vous dire un gros shkoyer, comme on dit en arabe, et un gros mazal tov, comme on dit en français, que nous avons réussi ensemble a lancé toute une étude. À un moment donné, on a failli lâcher, mais on a réussi à commencer une étude et à la terminer, à étudier toute la Amida. Vezé Baruch Hashem Gadol Meod. Je vous en remercie énormément. J'ai lancé comme question la semaine dernière, alors qu'est-ce qu'on va étudier maintenant? Les avis qui ont été proposés, mesdames, j'ai vu que vous voulez étudier les Minagim. Moi, je veux bien, mais c'est quand même extrêmement large, les minagim. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 milliard de minagim par minag. C'est-à-dire que quoi, il faut les minagim ashkénazes, les minagim polonais, les minagim tunisiens, algériens, marocains. Donc, j'ai peur que l'étude des minagim, ce soit quand même extrêmement large. Ou alors, ça voudrait dire qu'à chaque cours, on prend un minag en particulier. Donc, je sais pas, faut réfléchir. Si c'est effectivement ça que tout le monde veut, on fera ça, mais il faut juste que vous m'expliquiez comment vous le voyez la chose. Parce que les minagim, je vais pas pouvoir vous dire, on va faire un cours sur les minagim et ça va faire 3 cours. Qu'est-ce que vous voulez exactement, comme vous me dites, on veut faire un cours sur les minagim. Donc ça, j'ai besoin que vous me donniez un petit peu plus d'infos sur ce que vous avez envie qu'on mette en place. Les prophètes et leur insertion dans l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez étudier un prophète en général, en particulier, etc., ou prendre l'histoire des prophètes, voir chaque prophète, à quel moment il apparaît dans l'histoire. Ça peut être une idée. C'est-à-dire faire un cours sur l'historique des prophètes. Yecholiot. Donc, ce serait plus un cours d'histoire, quoi, en fait. C'est une idée, il faut réfléchir. Parce qu'il y a d'autres idées, là, qui viennent. D'autres idées, pas d'autres idées. Bon, écoutez, mesdames, je vous propose de réfléchir à tout ça. De bien réfléchir à tout ça. Et que voilà, on va marcher à la majorité, il y a pas de secret. Ouais, un prophète, lequel? Donc réfléchissons, proposez des idées, on va essayer de trancher à la majorité. Et voilà. Ça y est. En attendant, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Ishayahu, pourquoi pas. Alors, en attendant, je vous souhaite un gros Shabbat Shalom. Et dites-moi aussi, tenez-moi au courant, si est-ce qu'on peut se revoir la semaine prochaine pour réétudier en chair et en os, ou pas encore. On en reparle, évidemment, la semaine prochaine. Minag algérien, Zougalé, voilà, tout le monde d'accord. Oui, mais Moshe, toi, tu n'as pas ton mot à dire, parce que bientôt, ce cours redeviendra un cours de dames. Prophète, Shabbat Shalom, personne, hein, un cours d'histoire sur l'histoire d'Israël. Bon, mais quitte, il faut qu'on se mette d'accord. Ben Sader, on va réfléchir à tout ça. Ça marche. Shabbat Shalom, les koulam.